Et oui, il faut avoir deux yeux pour voir ce qui s'est passé ce week-end. Étonnant effet miroir. D'un côté, le G7 occidental en pleine convulsion au Canada. Et puis de l'autre, le sommet asiatique de l'Organisation de coopération de Shanghai organisé par la Chine qui se transforme et prend de l'ampleur. Bonjour Jean-Sylvestre Mongrenier.
Bonjour.
Géopolitologue, chercheur à l'Institut français de géopolitique, merci beaucoup d'être au téléphone avec nous. Alors c'est la déception pour Angela Merkel et les Européens après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire. Cette fois-ci, c'est le retrait et le rejet du multilatéralisme et des anciennes alliances. Commerce, climat, Russie, Donald Trump joue une sorte de restauration américaine contre l'ordre établi par ses prédécesseurs. Fut-il le consensus de Washington ou l'ordre qu'on appelle occidental? Alors G6+1 ou G7-1 selon les optimistes ou les pessimistes. En tout cas, division d'autant plus saisissante, Jean-Sylvestre Mongrenier, qu'au même moment, en Chine, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai s'affichait, lui, comme une démonstration d'unité, modèle multilatéral, nouveau G8 asiatique, disent certains. Alors, esprit de Shanghai, disait aussi le Global Times, ou America First, ce rééquilibrage en cours a été annoncé. Est-il encore négociable? D'abord, votre avis sur ce bilan qu'on peut faire rapidement du G7. Ce qu'on voit, c'est une Union européenne prise de court ou désorganisée. Êtes-vous d'accord?
D'abord, parler de rupture d'alliance, de retrait des anciennes alliances, il me semble que c'est quand même aller un petit peu vite en besogne. Le G7, c'est une diplomatie de club. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, comme ça a été dit dans une chronique précédente, c'est qu'il y a un certain nombre de bonnes manières, il y a un certain nombre d'us et coutumes qui normalement sont de rigueur dans un club qui sont de moins en moins respectés. Et pour des raisons de fond, voilà, ça a été précisé. À mon sens, c'est pas uniquement le style de Trump, qui de fait, comme on dit aujourd'hui, est disruptif. Mais bon, par exemple, la diplomatie du selfie de Trudeau qui cherche à se refaire une santé et puis qui après ce difficile communiqué commun en rajoute une couche, si je puis dire. Il faut quand même admettre que ça n'était pas non plus très adroit. Mais par ailleurs, donc, les pays du G7, eh bien, ils sont alliés avec des traités en bonne et due forme. Alors que si on regarde à l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est un forum de régime pour le plus grand nombre d'entre eux, ce sont des régimes à caractère autoritaire qui sont tenus d'une main de fer. Et donc, la vie politique dans ces pays-là n'obéit pas aux mêmes règles que dans notre hyper-modernité occidentale. Et il ne faut pas oublier que dans l'Organisation de coopération de Shanghai, vous avez par exemple l'Inde et la Chine qui sont à couteau tiré, qui sont quasiment en situation d'opposition.
Justement, on va en dire un mot parce que c'est à double sens, mais quand même, du côté de Donald Trump, si on en reste au G7 pour l'instant, il y a la volonté, plus que de bousculer le protocole, il y a la volonté réellement de torpiller symboliquement ou pas ce forum, et en même temps, il y a eu la volonté de se démarquer même dans le communiqué final.
Oui, il y a des désaccords, c'est un fait, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que l'on appelle l'Occident, ça n'a jamais été un bloc. Il y a une vision rétrospective, parfois lénifiante. Il vaudrait mieux parler de camp occidental, et il y a eu de nombreux désaccords au cours de l'histoire de ce camp occidental. Si on se ramène par l'esprit, si vous voulez, aux années 70, par exemple, il suffit de penser à Nixon, à la fin de la convertibilité hors du dollar, on avait parlé de coup d'état monétaire, il avait imposé une taxe douanière de 10% pour remettre sur la table une renégociation d'ensemble d'un certain nombre d'accords commerciaux. Et à l'époque, vous aviez Raymond Aron qui avait écrit un ouvrage qui est certainement à relire, La République impériale. Ça a été publié en 1973. Quand on reprend cet ouvrage, on s'aperçoit qu'il y avait de très grandes inquiétudes. Oui. À l'époque, ça a été oublié, l'idée que les États-Unis étaient en train de basculer à nouveau dans l'isolationnisme, que c'était peut-être conforme à leur histoire de longue durée. Donc, il y a un certain nombre de problèmes de fond qui se posent. Il y a la question des excédents commerciaux d'un certain nombre de pays qui s'accumulent année après année, décennie après décennie, qui nous mettent dans une logique de mercantilisme. Ça a été dûment notifié par un certain nombre d'organismes, y compris par exemple le Fonds monétaire international. Et au bout du compte, ça crée des lignes de conflit qui s'accusent. Et puis après, à l'intérieur de l'OTAN, le fait est que ça fait 15 ans, 20 ans et même plus, hein, presque une génération, hein, que nombre de pays européens ne respectent pas un certain nombre d'obligations. Hein, et le fait est que Robert Gates, hein, nous l'avait, l'ancien ministre de la Défense, hein, l'avait bien dit en 2011 dans un discours à Bruxelles, hein, qui n'était pas passé inaperçu, que ça a généré de plus en plus, hein, de ressentiment aux États-Unis. Hein, donc Donald Trump, avec son style propre, oui, hein, il pointe de véritables problèmes économiques, militaires, à l'intérieur du camp occidental.
Et un ressentiment qu'il faudrait voir à ne pas trop favoriser. Un présentateur CNN parlait d'une place spéciale en enfer pour les dirigeants qui, comme Justin Trudeau, sans le nommer, disons, s'en prendraient aux États-Unis. Vous disiez pas de danger pour l'alliance avec les Américains, mais n'empêche, justement, dans cet épisode qu'on a présenté comme une réaction épidermique face aux propos de Justin Trudeau qui disait que ces taxes américaines étaient insultantes, est-ce que ce qui n'est pas en jeu, c'est le fait que Justin Trudeau fasse appel à l'histoire d'un vieil allié des États-Unis, comme il en dit, ce qui n'entre pas du tout dans la logique out of the deal de Donald Trump?
Enfin, je pense que c'était déplacé déjà de mettre sur le même plan une histoire politique, militaire, à travers les Premières Guerres mondiales, Deuxième Guerre mondiale, guerre froide, et puis de l'autre côté, des questions commerciales, des taxes, hein, sur l'acier, des taxes sur l'aluminium. Ben, j'ai le sentiment, malheureusement, et c'est peut-être le produit d'une sorte de dépolitisation, de perte de responsabilité des alliés des États-Unis, que l'économie est devenue le destin. Il y a de véritables problèmes géopolitiques. Vous parliez de rééquilibrage au niveau international. Ce qui est à craindre, c'est purement et simplement une rupture d'équilibre avec tout ce que ça pourrait entraîner. Sur un certain nombre de questions comme l'Iran, sur le plan stratégique, finalement, on s'aperçoit qu'on passe quand même assez rapidement sur la réalité des menaces. Et puis, alors en revanche, les parts de marché, les questions de commerce, alors que quand on regarde par rapport à la totalité des échanges transatlantiques, à ce que représente l'aluminium, ce que représente l'acier, ça n'est quand même pas énorme. Hein, et le fait est que les États-Unis enregistrent des déficits commerciaux extrêmement importants. Hein, quand on regarde l'importance de ces déficits commerciaux, et puis que de l'autre côté, on passe son temps à stigmatiser le soi-disant protectionnisme américain, il me semble qu'il y a quand même un grand écart là, entre un certain nombre de discours et la réalité.
Et précisément, vous parlez de l'Iran, Jean-Sylvestre Montgrenier, mais est-ce que là-dessus, c'est pas là qu'on voit ce fameux sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai s'offrir comme un contrepoids, voire comme un véritable contre-modèle? L'Iran a été invité ce week-end et l'organisation a bien réaffirmé, aussi bien en bilatéral qu'en unitaire, le soutien à l'accord nucléaire. C'est quand même quelque chose d'important.
De fait, hein, c'est important, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une partie des pays, je mets de côté l'Inde, hein, qui sont membres de cette organisation de coopération de Shanghai, ou qui aspirent à en devenir membres, qui se posent comme des puissances ouvertement révisionnistes, hein, qui veulent mettre à bas la longue hégémonie occidentale, là, depuis 5 siècles, hein, donc qui s'inscrivent dans une logique de rupture, et à cet égard, l'Iran donc est vu comme la pointe avancée, finalement, de ce front de puissance révisionniste au Moyen-Orient. Et donc, il pousse ce pays.
Et avec un espoir de réussite, justement, si on parle d'un test pour cet OCS ou pour ces pays qui souhaitent rééquilibrer les rapports, qu'est-ce que ce sera? L'accord nucléaire, la Syrie et la paix en Syrie, ou alors l'Ukraine? Là, il y a une réunion aujourd'hui.
Sur l'Ukraine, chacun reste sur ses positions, et justement, vous avez raison de mettre en avant l'Ukraine, ça rappelle la réalité d'un certain nombre de menaces sur les frontières orientales de l'Europe, hein. Et face à cette menace, le fait est que l'Alliance Atlantique est là, les États-Unis font plus que remplir à toutes leurs obligations, réassurent militairement les pays européens, donc il peut y avoir des désaccords intérieurs du G7, il peut y avoir le style des disruptifs de Donald Trump, mais bon, le fait est que sur le terrain, l'Alliance Atlantique tient. Alors après, il y a la question de l'Iran. À mon sens, les pays européens sont quand même un petit peu limites sur cette question, parce qu'il y a quand même un certain nombre de menaces qui ont été pointées par Paris, par Berlin, par Londres. On a demandé donc aux Iraniens d'ouvrir une négociation sur les programmes balistiques, sur toute la politique de déstabilisation colonisation de la région qui est menée par l'Iran, ben, notamment en Syrie. Ouais. Et le fait est que les dirigeants iraniens nous ont purement et simplement envoyés promener. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On expliquait que finalement, c'était une petite réflexion en passant, c'était pas si grave. Et puis l'accord de 2015. Ou alors, est-ce qu'on s'engage dans une épreuve de force? À certains égards, moi j'ai le sentiment que Donald Trump, finalement, il nous a imposé un raccourci. Mais si on prenait au sérieux nos griefs à l'encontre de la politique du régime irano-chiite, à un moment ou à un autre, on se retrouvait en situation de conflit.
Merci, on renverra vos articles publiés à ce sujet sur Atlantico. Merci Jean-Sylvestre Mongrenier, géopolitologue, chercheur à l'IFG.